Messieurs, quand on parle d'histoire, il faut parler de Bouvres, le déroulement des jours et des années. Quand on parle philosophie, il faut parler ainsi, pour parler détails. Je m'assieds et je vous demande de fermer la porte. Notre 18e siècle est un siècle impie. Et cette impiété a son noyau dans l'encyclopédie. C'est elle que je veux étudier pour vous aujourd'hui et vous montrer comment ce phénomène a pu se produire après un 17e siècle où au contraire tout ce qui était cultivé était chrétien et tout ce qui était chrétien jouissait de la plus haute estime des hommes, des pouvoirs et de toute la population. Comment cette violente transformation a-t-elle eu lieu et que s'est-il passé? Je pourrais entrer dans des détails qui vous sembleraient peut-être fastidieux, mais qui ne le sont pas. En insistant, et je le fais avec discrétion, ce n'est qu'une suggestion que je vous présente, sur le fait que les sentiments et les idées sont un seul et même état de conscience dont ils sont les deux faces distinctes. Et que, à certaines époques, cet état de conscience se présente sous forme d'idées et ensuite devient sentiment, et qu'ensuite il y a mutation, et qu'un sentiment qui n'aboutit pas à l'idée finit par s'éteindre, et qu'une idée qui n'aboutit pas à un moment quelconque, à une phase sentimentale, se dessèche elle-même. Vous verrez l'utilité de cette remarque plus tard. La haine de l'Église existait dans un certain nombre d'âmes. Un petit nombre d'âmes, c'était surtout un sentiment très aigu qui n'était guère exposé sous forme intellectuelle, et qui était par conséquent violent, mais peu capable de s'extérioriser. Au début, à la fin du 16e siècle, à la fin du 17e siècle, au début du 18e, un homme très curieux amena ou prépara la transformation qui allait se faire. Cet homme s'appelait le C'était un curieux homme. On pourrait dire que c'était un raté s'il n'avait pas eu une influence aussi énorme. Poulain Villiers a expliqué en des livres compliqués et pas très bien écrits un certain nombre de théories qui ont eu un succès limité et ensuite un grand succès. L'une de ces théories, c'était que seules les étoiles dominent le monde et que chaque homme a sa destinée fixée par les constellations à l'époque où il est né. Il a rangé ça d'une façon telle qu'on pouvait à la rigueur s'y retrouver au point de vue chrétien, à la rigueur. C'était l'un des aspects de sa théorie. Cela lui permettait de prédire l'avenir. Il avait prédit, ce qui impressionna beaucoup les contemporains, le jour de la mort de Louis XIV. Pour lui-même, il se trompa d'une demi-heure, mais on peut lui pardonner. Donc, c'était un homme assez curieux. Cet homme assez curieux avait une théorie qui est la suivante. C'est que les rois de France n'étaient d'abord que des rois de barbares, qui étaient élus par les guerriers et qui n'étaient pas des rois héréditaires, mais qui devaient tout aux guerriers. En réalité, les Francs étaient un assemblage d'aristocrates. Et que par conséquent, les rois capétiens avaient dérobé à la noblesse tous ses droits. Et qu'en même temps, ils s'étaient mis d'accord avec l'Église pour ruiner les nobles. Car l'Église avait reçu de très nombreux dons de nobles qui ayant commis 1000 paillardises, quelques massacres, des viols et d'autres choses de ce genre durant leur vie, laissaient une moitié ou un tiers de leur propriété à l'Église pour essayer de se mettre bien avec le ciel au moment où ils allaient y aller, aux dépens de leurs enfants. Donc, l'Église du 17e, 18e siècle possédait presque le cinquième des biens terriens de la France. Et c'était contre cela que Boulainvilliers, qui était avant tout un aristocrate, protestait, comme il protestait contre l'autorité du roi de France sur la noblesse, alors qu'il aurait dû être simplement un supérieur parmi ses égaux. Ces théories s'ajoutaient à une autre thèse, c'est que le principal mal venait de Richelieu, que Richelieu était le grand criminel, que jusqu'alors la situation n'avait été tantôt bonne, tantôt mauvaise, mais que c'était Richelieu qui avait porté le coup le plus grave à la noblesse et qui avait donné à l'Église le pouvoir le plus grand comme à la monarchie. Boulainvilliers fut le conseiller du régent. Boulainvilliers jouit d'un extraordinaire prestige pendant la régence du duc d'Orléans, et Boulainvilliers fut lu dans toute l'aristocratie française et anglaise. J'ai moi-même écrit un essai sur Boulainvilliers, et une brave dame auquel j'avais conseillé cette étude a fait un énorme volume, et en ce moment-ci, à Amsterdam, on prépare 12 volumes de et sur Boulainvilliers. C'est donc vous dire que ce que je vous dis aujourd'hui n'est pas quelque chose qui soit inconnu, ni quelque chose qui soit sans importance dans l'opinion actuelle. Boulainvilliers est de nouveau à la mode comme il l'était au début du XVIIIe siècle, avec sa double thèse. Haine de l'Église, haine des rois, réclamation pour la noblesse du pouvoir et les richesses que l'Église lui avait volées, disait-il. Ces opinions trouvèrent un écho dans différents milieux parmi les gens les plus distingués. Un certain Abbé Saint-Pierre fonda même un club qui s'appelait Club de l'Entre-Sort, dans lequel ces idées-là et des idées analogues étaient discutées, étaient examinées, jusqu'au jour où le cardinal Fleury, qui était à ce moment la ministre, s'était concrétisé et avait trouvé des disciples. Cette évolution de l'opinion était purement intellectuelle. Elle fut accompagnée d'une évolution politique et d'une évolution sociale. Tant que Louis XIV vécut, la France était morale, et Louis XIV la voulait morale. Tant que Louis XIV vécut, le roi régnait et le Parlement obéissait. Tant que Louis XIV vécut, les ministres étaient ses agents tout puissants, et ces ministres, il les prenait dans la bourgeoisie afin d'être obéis exactement et d'avoir comme ministre des gens qui fissent leur métier avec soin sans se croire au-dessus de leurs devoirs. Tout cela changea avec l'arrivée au pouvoir de Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans prit le pouvoir en 1715. Et pour l'avoir total, malgré le testament de Louis XIV, il fit casser par le Parlement le testament de Louis XIV. Donc, il rendit au Parlement une supériorité énorme. Ensuite, alors que Louis XIV était l'allié de l'Espagne et des pays catholiques, lui, il fit une alliance avec l'Angleterre. Ensuite, il chassa les ministres bourgeois et prit, comme en Angleterre, des conseils de nobles, présidés par un homme, pour gérer les ministères. Et puis, contrairement à Louis XVI, il installa dans son palais et dans tout le monde officiel une indescriptible science d'immoralité, de spéculation, de péculation et tout le reste. Louis XIV disait de lui, mon neveu a beaucoup de qualités, mais c'est un fanfaron de crime. Après la mort de Louis XIV, on l'a bien vu. J'ajoute à tout cela qu'il était assez intelligent et capable même d'être assez bon. Mais que l'opinion publique, vraie ou fausse, croyait qu'il couchait avec sa fille et que l'opinion publique croyait qu'il allait de temps en temps dans les carrières de Montrouge, immoler un cheval noir pour voir le diable. Ça, je ne vous garantis pas ça. C'était ce que disait l'opinion publique en général. Les années de 1715 à 1723 furent donc des années où l'état moral, mental, social de la France fut complètement bouleversé. Et où l'Église, qui jusqu'alors avait un rôle immense, se trouva méprisé et relégué, je ne dirais pas au second plan, mais au sous-sol. À la mort du régent, et voici, messieurs, tout de même l'histoire de la mort du régent, parce qu'elle vous donnera une idée que Dieu guette tout le monde à un moment quelconque. Il avait fait un bon dîner. Et alors, pour terminer ce bon dîner, vous m'excusez, nous en sommes aussi, je fais un intermède historique. Il s'était assis sur les genoux de la plus jolie de ses maîtresses, qui était une dame très bien née, dont il avait fait la duchesse de je ne sais trop quoi. Et puis, il y a un petit malaise. Et il dit à sa chère duchesse, et toi, tu crois en Dieu? Et comme toutes les putains, elle était pieuse. Elle répondit, certainement. Et lui fut un petit geste, et il était mort. Donc, il a au moins parlé de Dieu, et entendu parler de Dieu avant sa mort, par une femme qui avait beaucoup de défauts, mais qui avait le reste d'âme, laquelle criait en elle, et a crié à ce moment-là une parole qui a peut-être été entendue par l'âme de Philippe d'Orléans. Donc, à ce moment-là, tout avait été bouleversé. Mais Philippe d'Orléans n'avait pas gouverné très longtemps, puisque c'était seulement de 1715 à 1723. Seulement après lui, vint le ministère du duc de Bourbon, qui était tout aussi corrompu, un peu plus hypocrite. Et après le duc de Bourbon, vint un ecclésiastique qui s'appelait le cardinal de Fleury. Fleury était un honnête homme, un homme de bien et un assez bon prêtre. Mais c'était un vieux prélat qui voulait la paix, qui voulait le calme, qui essaya de porter remède à certains défauts du gouvernement, qui essaya de mettre un peu d'ordre, mais qui n'employa pas l'énergie, la virilité et les mesures fortes qu'il aurait fallu pour remettre les choses en place. Donc, il y eut un peu d'ordre extérieur, mais le désordre moral continua. Pour vous en donner une idée, je vous signalerai ceci. C'est vers cette époque-là, c'est-à-dire entre 1720 et 1735, qu'une expression qui était courante au XVIIe siècle allait remplacer par une autre qui deviendra courante au XVIIIe siècle. Au XVIIe siècle, quand on voulait dire du bien de quelqu'un, on disait « c'est un honnête homme ». Dire que c'était un honnête homme voulait dire qu'il était chrétien, bien élevé, cultivé et de bonne manière. À partir de 1730-1735, on ne dit plus du tout ça, on ne retrouve plus ça nulle part. Mais on dit des gens, oh, c'est un philosophe. Qu'est-ce que veut dire le terme philosophe? Quand c'est un adjectif, ça veut dire que la personne en question est très estimable parce qu'elle ne croit pas en Dieu et parce qu'elle se guide selon une morale purement laïque. Et quand c'est comme un, pour un substantif, ça veut dire que cet homme a l'honneur d'écrire des impiétés. Voilà ce que signifient ces deux titres nouveaux. L'Église, à ce moment-là, était trop souvent une carrière. Et très peu des évêques furent en état de lutter. Je vous expliquerai demain quels sont ceux qui ont essayé. Dans l'ensemble, la noblesse, l'épiscopat a laissé faire. Le roi, qui était lui un honnête homme, était entouré dans sa cour, il y restait, et surtout il s'occupait de ses maîtresses ou de ses enfants, parce qu'il était bon père, mais il s'occupait très peu du gouvernement. Il reprenait de nouveau des ministres, et il était, lui, au-dessus de ses ministres, un arbitre qui n'intervenait que quand le ministre faisait une trop grosse bêtise, alors il le renvoyait. Le XVIIIe siècle est le siècle de la noblesse. Les nobles ont désormais, les premiers ministres sont des nobles. Quand ce n'est pas le cardinal de Fleury qui était un homme, c'est le duc de Choiseul qui est un noble, c'est le duc d'Aiguillon qui est un homme, etc. Donc le XVIIIe siècle voit la noblesse reprendre une place qu'elle avait perdue au XVIIe siècle. Voit la noblesse s'enrichir extrêmement. Et voit la noblesse s'enivrer de l'exemple de la noblesse anglaise. Vous avez entendu parler d'un certain Montesquieu, qui est l'écrivain le plus notoire jusqu'en 1745, et qui a écrit l'Esprit des lois, et qui donne le régime aristocratique comme le meilleur de tous. Donc, la noblesse dominait tout, et la noblesse voulait se venger du roi. C'est donc l'époque entre 1715 et 1740, où la noblesse, qui est très puissante, qui est très riche, et qui est jalouse du roi, fait accord avec les philosophes et les historiens impies pour lutter contre la monarchie. Les écrivains qui, au XVIIe siècle, comme Racine, Molière, Boileau et autres, dépendaient du roi, allaient chercher à la cour leur principal appui, dépendent désormais des nobles chez qui ils vont déjeuner, dîner, qui leur font des pensions, qui les reçoivent à la campagne et qui les flattent, ce qui est encore le cas le plus important pour un écrivain. Dans cette atmosphère-là, la ligue entre écrivains impies et nobles ambitieux crée une situation dont les écrivains vont bientôt profiter. On essaye d'attaquer l'Église de tous les côtés. Les écrivains, comme les nobles, sont jaloux de l'Église. Mais les nobles sont jaloux de l'Église parce qu'elle a du pouvoir et l'argent et des biens. Les écrivains sont jaloux de l'Église parce qu'elle a de l'influence sur les hommes et qu'elle domine les consciences. Eux, ils veulent prendre possession des consciences humaines et ils veulent s'emparer de la situation que le clergé avait auparavant. Et c'est en effet ce que ils vont faire pendant tout ce XVIIIe siècle, une lutte pour s'emparer des consciences et pour mettre la main sur la psychologie des hommes. La même idée, si vous voulez, que la maçonnerie, mais la maçonnerie agit d'une façon sociale, tandis que les écrivains agissent d'une façon intellectuelle. Aussi les écrivains, certains écrivains, vont-ils reprendre une idée maçonnique? La maçonnerie anglaise avait publié une encyclopédie qui s'appelait Charles Encyclopedia et qui avait eu en Angleterre un grand succès. Une encyclopédie assez bien faite, assez banale en somme. La maçonnerie anglaise n'essayait pas en Angleterre d'avoir un rôle révolutionnaire. Elle se réservait surtout pour l'étranger. Un libraire parisien qui s'appelait Le Breton, et qui était lui-même maçon, a voulu traduire cette encyclopédie. Et il a cherché quelqu'un pour la traduire. Ceci se passait en 1745. Il y avait à ce moment-là à Paris un petit jeune homme de province, très fort physiquement, très robuste intellectuellement, très audacieux, grande gueule, et qui, ayant une épouse et une fille, avait besoin de gagner sa vie. Or, ce petit jeune homme qui s'appelait Denis Diderot fut très content d'accepter en principe l'offre de Le Breton. Mais quand il eut lu, parce qu'il parlait un peu anglais, quand il eut lu la Chambers Encyclopedia, il la trouva bien plate. Et au lieu de traduire cette encyclopédie, qui était en somme assez banale, il voulut faire œuvre nouvelle et créer une encyclopédie beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus vivante et qui serait la grande encyclopédie française philosophique du XVIIIe siècle. Diderot était un homme d'action. Il savait plaire, savait agacer aussi, mais il savait plaire. Et il avait une vitalité du tonnerre. Donc, avec l'aide de ses deux libraires, il trouva des capitaux. Et il trouva 4000 souscripteurs. Ça lui suffisait. Chacun payait 840 francs. Et au XVIIIe siècle, 840 francs, c'était beaucoup. Avec cette... il a lancé un premier prospectus où il annonçait qu'il allait imprimer une encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Remarquez bien comment la chose se présente. Nous sommes au XVIIIe siècle. Il y a d'abord le mot raisonné, qu'il n'y a pas en Chambers. Les philosophes prétendent toujours qu'ils suivent la raison. Il y a ensuite l'ordre des trois mots, science, art, métier. Au XVIIIe, au XVIIe siècle, on aurait mis le mot littérature, on aurait mis le mot art en premier, mais ici c'est la science qui sont en premier. Et vous voyez aussi qu'il parle des métiers. Il parle des métiers et ceci vous indique déjà l'orientation pratique et matérialiste de l'encyclopédie. Cette orientation était une volonté très ferme, comme une croisade, car l'objet de l'encyclopédie était de changer, entre guillemets, changer la façon commune de penser, c'est-à-dire transformer dans une population catholique qui acceptait la conception catholique de la vie avec la foi, la morale, l'idéalisme catholique, la transformer en un matérialisme philosophique. C'est à cela que Diderot se consacra corps et âme, de toutes les forces de sa vie, et qu'il mit, lui si inconstant, lui si ondoyant, lui si peu sûr dans beaucoup de domaines, une patience et un acharnement qui aurait mérité plus, mieux. C'était un énorme travail, puisqu'il publia d'abord, à partir de 1751, 28 volumes. Puis, après une certaine interruption, 5 volumes de suppléments, 2 volumes de tables, ce qui fait 35 volumes, et 11 volumes de planches, qui sont peut-être ce qu'il y a de plus beau. Ces planches sont tracées avec un talent extrême et nous donnent aujourd'hui une idée merveilleuse de ce qu'étaient les métiers au XVIIIe siècle. Chaque métier important, menuiserie, ferronnerie, joaillerie, etc., est analysé et les planches décrivent tous les outils employés. À ce point de vue-là, l'encyclopédie est une réussite, elle ne l'est pas pour autre chose. L'encyclopédie, donc, était trop considérable pour que Diderot la rédigeât seul. C'était une tâche infinie. Il courut à droite, à gauche, il raccrocha celui-ci, celui-là, et dans un instant, je vous expliquerai comment il a trouvé tous les gens qu'il fallait. Mais c'est lui qui relisait tous les articles et qui lui donnait le coup de patte qui faisait que l'encyclopédie était vraiment un dictionnaire unique ayant un sens, une orientation, une technique. Dans l'ensemble, la rédaction était plutôt prudente. Dans l'ensemble. Mais il y avait des trucs. Pour ce qui était de l'histoire de la philosophie que rédigeait Denis Diderot, les définitions sont assez simples et assez classiques. Pour ce qui est de la religion, les définitions sont en général plates. Et en théologie, perfide. Puis pour tout ce qui est logique et pour tout ce qui est connaissances diverses, là, très audacieuses la plupart du temps. Pour ce qui est de religion et de théologie, le grand truc, c'était de mettre des renvois. Je vais vous donner trois exemples qui vous feront comprendre quelle était la technique pour démoraliser les gens. Par exemple, là où il y avait un article sur la divinité du Christ. L'article n'était pas très long et était d'une grande platitude, réutilisant des définitions plus anciennes de théologiens pas très éclairés. Mais à la fin de l'article, il y avait un renvoi au mot « religion » au pluriel. C'est-à-dire, et si on se reportait à cet article « religion » au pluriel, on y voyait énuméré de façon très caustique toutes les religions antiques et contemporaines non chrétiennes, de façon à montrer leurs contradictions, de façon à montrer ce qu'elles avaient de contraire ou d'analogue au catholicisme, et de façon à tourner en dérision toutes les religions. Si l'on lisait l'article miracle, l'article miracle avait lui aussi une définition très banale, une définition prise dans un des dictionnaires courants de théologie et à peine retouchée pour la rendre plus simple. Mais il y avait à la fin un renvoi au mot mystère au pluriel, c'est-à-dire à l'article sur les mystères païens, où on parlait de tous les miracles faits par les dieux antiques, et en particulier par le fameux thaumaturge, plus ou moins véridique, Apollonios de Thiers. Il y avait un deuxième renvoi qui renvoyait au mot critique. À ce mot critique étaient énumérées toutes les règles de la saine critique et de la saine raison, d'où il ressortait qu'un homme de bon sens ne pouvait pas croire au miracle, il ne pouvait pas exister pour un homme de bon sens. De même, au mot communion, il y avait sur l'Eucharistie quelques lignes banales, prise dans un dictionnaire de théologie de l'époque. Mais un renvoi au mot « sacrifice antique ». Dans ce renvoi, dans cet autre article, « sacrifice antique », on pouvait lire des citations de Platon. Dans un des dialogues de Platon, celui-ci parle d'une île qui s'appelait l'Atlantide, qui a disparu, et parle de la religion de cette île. Or, Platon décrit, j'ai lu cet article, dialogue de Platon. Platon décrit des cultes qui consistaient à sacrifier un bœuf divin et à faire manger des morceaux de ce bœuf divin par tous les membres du culte qui était autour de l'endroit du sacrifice, en sorte que tous entraient en transe, etc. C'est en effet ce que dit Platon. Mais, par des artifices de langage, on rapproche excessivement et outrageusement la communion chrétienne de cette espèce de communion païenne, en sorte que la communion chrétienne a l'air de n'être qu'une reproduction, qu'une imitation de la communion antique et de ne pas avoir plus de valeur que celle-ci. Je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples, mais ceux-ci, à mon avis, sont assez typiques pour que vous compreniez la façon dont il faisait ça. Dans l'ensemble, l'ouvrage était fait de rationalistes, mais de rationalistes qui ne suivaient les théories de Descartes qu'à très court terme. Je veux dire que la raison, chez les philosophes encyclopédistes, était une raison qui restait liée à un bon sens matérialiste et critique. C'était un Descartes châtré et sans aucune de ses élévations spirituelles, comme il les montre dans les méditations. De même, ce qui apparaissait comme théorie, c'était le sensualisme de Locke. Pour l'origine des idées, pour l'origine des connaissances humaines, tout sortait, pour les encyclopédistes, de l'expérience du corps qui, à l'intérieur de l'intelligence humaine, se subtilisait, devenait subtil et, graduellement, par un procédé physiologique, devenait idée ou sentiment. Toutes les fois qu'il y avait, donc on le pouvait, sans se compromettre trop, il y avait de sourdes railleries contre la religion. En politique, on était assez prudent. Toutefois, on laissait voir que les États seraient vraiment beaucoup plus heureux s'ils étaient gouvernés, non pas par la foule n'était que mépris, ordure. Rousseau, Diderot, D'Alembert, tous les philosophes considéraient les gens du peuple comme de la boue qu'il fallait laisser boue sans essayer de la changer. On raconte qu'une fois chez des amis nobles, Voltaire et Diderot faisaient d'horribles plaisanteries sur le Christ. Puis entra un serviteur et Voltaire se tut. Diderot continuait. Voltaire lui fait signe de se taire. Et quand le serviteur fut parti, il lui dit « Non, il ne faut pas faire ça dans les serviteurs. Il faut que le serviteur reste ignorant, bête et fétichiste. » Donc, vous le voyez, le dictionnaire s'adressait à la noblesse. Il s'agissait de corrompre, d'entraîner tout ce qu'il y avait d'important, d'influent, de riche dans les classes dirigeantes en Europe et surtout en France. Diderot se donna une peine infinie pour faire ce travail. L'encyclopédie était en quelque sorte son bureau. Faguet dit dans son livre sur le XVIIIe siècle, il y fut un bon employé, ponctuel, attentif, dévoué au devoir, travailleur, admirable, écrivain lucide, sachant faire travailler tous les autres, bon chef de division, décent et correct autant qu'il le pouvait. Pas d'imagination ni de liberté, du moins pour ce travail-là, au bureau. Au bureau, il faut de la tenue. Il écrit l'histoire de la philosophie article par article d'une façon assez convenable et banale, tellement que d'autres philosophes le lui ont reproché, en particulier Naigeon. Il travaillait pour un salaire relativement bas. Ensuite, il fut riche, mais au début, il fut pauvre. Pour un salaire relativement bas, il travaillait beaucoup et il savait trouver des collaborateurs. Quels étaient ceux-ci? Il y avait d'abord des collaborateurs qui étaient, comme lui, de l'état-major antichrétien. Le plus important était Voltaire. Voltaire avait déjà une situation énorme et son impiété était connue, mais naturellement, il était un peu au-dessus de ce travail de dictionnaire. Et même s'il donnait quelques articles, il ne voulait pas s'engager trop, parce que cela lui semblait en dessous de lui. L'autre philosophe qui, lui, s'engagea à fond au début, s'appelait D'Alembert. D'Alembert était le fils naturel de Madame de Tencin, donc d'une très bonne famille, mais comme ça me gênait un peu Madame de Tencin d'avoir un bébé, on exposa le petit jeune homme sur les marches d'une église. Il fut recueilli, il fut soigné et il devint, il fit des études dans un bon collège et il devint un très grand mathématicien, tellement bien qu'à 24 ans, il était élu à l'Académie des sciences et à 30 ans à l'Académie française. C'était donc un mathématicien et un géomètre extrêmement doué. Son style est un peu lourd, mais c'est tout de même un homme qui, au point de vue science, était l'un des premiers en France. C'est lui qui était chargé de toute la partie scientifique dans l'encyclopédie, et c'est lui qui fit le discours d'ouverture pour annoncer l'encyclopédie. Il y mit beaucoup de dignité, beaucoup de froid, car il avait le don du froid. Mais il se brouilla ensuite parce qu'il était remarquablement lâche et qu'il ne voulait pas risquer sa peau ou risquer même de perdre un peu d'argent, car il aimait assez l'argent. Parmi les autres amis d'Hydro qui travaillaient, l'un des plus importants est un Allemand qui s'appelait Grimm. Grimm venait de Saxe. Il était lourdeau, mais il était fin et il avait un esprit dur. C'est lui qui rédigeait une correspondance littéraire qui circulait chez tous les petits et moyens et même grands souverains de l'Allemagne et qui faisait de lui une personnalité européenne. Un de ses petits souverains fit de lui un baron et après ce jour-là, il fut d'une vanité insupportable. Pour soutenir sa vanité et montrer sa beauté, il se plâtrait le visage ou si on l'appelait Tyran le Blanc. Mais il avait un certain sens critique qui fait que sa correspondance littéraire a eu une importance énorme. Il faisait ça et là des articles pour Diderot, mais surtout il faisait une grande réclame à Diderot dans toute l'Europe. D'Alembert Marmontel, qui était un Auvergnat, il parlait comme un bœuf un peu enrhumé. Mais il était extrêmement audacieux et tout dévoué à la philosophie. C'est lui qui fit tous les articles littéraires qui sont lourdeaux. En fait, d'impiété, les deux plus ailés avec ces deux-là étaient Helvétius, qui descendait d'un Suisse fixé en Hollande et dont le père avait été le médecin de Louis XIV et de beaucoup de gens fameux, avait gagné de l'argent, et le fils avait été, lui, fermier général et avait gagné encore beaucoup plus d'argent. Et ayant beaucoup d'argent, il avait deux passions. Je vous demande pardon, messieurs, les femmes avec lesquelles il voulait coucher, et il le faisait, et Dieu qu'il haïssait. C'est lui qui écrivait un livre de l'esprit pour montrer que l'esprit n'existait pas. Un autre personnage impie était un homme qui s'appelait D'Holbach, H-O-L-B-A-C-H. Celui-là est une espèce de petit baron allemand, lourdeau, mais qui a une vie assez riche en France, et qui écrivait mal, mais qui tout de même écrivait d'une façon pertinente. Pour vous donner une idée de son impiété et les plaisirs de sa vie à la campagne, il avait ce joli petit château des environs de Paris qui était tout ouest encore mieux pour sa femme. Et Herzog d'Hydro. Et Hydro écrivait à sa bien-aimée, et pour vous donner le ton, allez messieurs, ce que je dis est grossier, mais c'est pour vous donner le ton de cette société. On s'était pas bien-aimée, d'Hydro, on s'est admis, amusé d'une façon merveilleuse l'autre jour chez M. D'Holbach, figurez-vous qu'il y avait le gros curé du village, et qu'alors. On va boire, etc., et puis on vient manger. Et après le dîner, après le dîner, on a dit à la Béor, prenez Madame Dain, c'était la belle-mère, sur vos épaules, et puis ça sera gentil, faites un petit tour de jardin comme ça. Et pendant qu'il avait Madame Dain sur ses épaules, on a tellement plaisanté que Madame Dain l'a inondé de ce que vous pensez, et alors nous étions tous ravis, ça nous a amusés comme des fous, etc. C'est ça. Ça s'abandonne avec des. C'est vous dire l'état d'esprit, la propreté et la dignité de tous ces gens. Lolbach était le plus impie de tous, comme il était le plus grossier, mais il avait une certaine fortune et une certaine, cette espèce de bonhomie cordiale quand des gens très grossiers. Quand ils l'ont, ceux-ci étaient donc les gens les plus dévoués. Il y en avait d'autres qui étaient dévoués, mais qui étaient de second rang intellectuel, comme le comte de Tresson, qui était le chambellan du roi de Sicile, du roi de Sardaigne, du roi de Pologne, Stanislas. Un autre sympathisant, parce qu'il était à peu près de leur avis, mais il ne voulait pas se compromettre, c'était le fameux Buffon, qui a publié dans l'encyclopédie des articles sur les animaux, histoire naturelle. Il y avait également un censeur qui les protégeait, c'était l'abbé Trublet, Thierry Bielleté, et noble de la cour qui s'appelait le comte d'Argental. Il y en avait d'autres encore, je vous donne les plus fameux. Il y eut aussi à un moment Jean-Jacques Rousseau qui fit les articles relatifs à la musique à un moment où il ne la connaissait à peu près pas. Mais il était à ce moment-là l'ami intime de Diderot, il avait besoin d'argent, et Diderot lui fit faire ses articles, qui ensuite il supprima. Du reste, et ceci est un incident dont il faut que je vous parle, Rousseau était arrivé à Paris catholique, ayant la foi. Puis il rencontra le jeune Diderot, très sympathique, très vivant, et dans la dèche comme lui. Ils mirent leur bêche en commun, ils se virent beaucoup, ils devinrent des camarades quotidiens, discutant, causant, etc. Et Diderot, qui avait un don de logique beaucoup plus fort que Rousseau, réussit à détruire, écoutez-moi bien, à détruire toute la construction intellectuelle de sa foi, tout ce qui était dogme, tout ce qui était pensée systématique autour de sa religion. Mais quand il voulut s'attaquer à l'idée même de Dieu, Rousseau se brouilla avec lui plutôt que de renoncer à l'idée divine et au sentiment d'amour de Dieu. Ainsi, après avoir été encyclopédiste un tout petit peu, Rousseau fut plus tard l'un de ceux qui luttèrent contre l'encyclopédie et surtout contre qui l'encyclopédie lutta, car Rousseau, avec bien des bizarreries dans tous ses principaux livres, néanmoins parlait de Dieu avec effusion, tendresse et respect. Vous me diriez, voilà des esprits bien différents. Quel drôle de mélange cela faisait. Et en effet, D'Alembert lui-même déclarait, il y a de tout dans l'encyclopédie. C'est un gouffre où, Diderot la voix, des espèces de chiffonniers ont jeté pêle-mêle une infinité de choses mal vues, mal digérées, bonnes et mauvaises. Dans cet ouvrage auquel d'Alembert le dit, on a employé trop de manœuvres, et que Voltaire appelle une Babel. Le bon, le mauvais, disait-il, le vrai, le faux, le sérieux, le léger, tout est confondu. Il y a des articles que l'on dirait rédigés par un fat qui court les boudoirs, d'autres par les cuistres de sacristie. On passe des plus courageuses hardiesses aux platitudes les plus écœurantes. Tout cela est vrai, mais l'ensemble était imposant. Et l'ensemble avait en Europe un immense succès, car il n'existait rien de semblable nulle part. Et l'ensemble coïncidait à une tendance qui se répandait dans beaucoup de pays d'Europe avec le bien-être et le luxe des classes supérieures, qui est l'égoïsme, le matérialisme et le sensualisme. Pourtant, la France était catholique, elle était profondément. Pourtant, le roi était catholique, elle était sincèrement. Comment cet ouvrage a-t-il pu publier 35 volumes, indéfiniment, en face de l'indignation d'une partie du public et de la désapprobation du roi, ainsi que de la désapprobation de la Sorbonne, qui avait la censure de tout ce qui était religieux, et que la désapprobation du Parlement, qui était en majorité pieux, et qui pouvait lui aussi interdire des livres. Comment cela s'est-il fait? Voilà quelques-unes des explications. Demain, je vous énumérerai les batailles autour de l'encyclopédie, mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer les ressources qu'ils avaient. Le roi était lointain, il s'occupait de ses maîtresses. La Sorbonne était divisée entre orthodoxes et jansénistes. Le Parlement l'était aussi. Le ministre qui était chargé de la librairie, sous la monarchie, il y avait un ministre qui était chargé de ce qu'on appelait la librairie, c'est-à-dire que c'était lui qui choisissait les censeurs pour chaque livre. Chaque livre était censuré avant de paraître avec un privilège. C'était lui qui choisissait les censeurs, c'était lui qui surveillait le travail des censeurs, c'était lui qui voyait les livres que l'on pouvait accepter en France ou non. Or, pendant cette période-là, le principal secrétaire de la librairie fut un charmant homme qui s'appelait Monsieur Malzer. Monsieur Malzer était intelligent, honnête, cultivé, bon, bien marié, pas problème. Il n'avait qu'un défaut. Il voulait être populaire. Et ça, avec ça, on peut faire marcher qui on veut par le nez. Il voulait être populaire et naturellement, il voulait être populaire auprès de ceux qui le rendaient populaire, c'est-à-dire les écrivains. Aussi, les écrivains et les gens de l'encyclopédie dont l'ouvrage se répandait dans tout l'univers et dont le moindre événement était commenté et répandu par la Gazette Grimm. Donc, pour Malzer, il était important de s'entendre avec eux. C'était un parlementaire, nous dirions aujourd'hui, libéral. Le mot n'existait pas encore. Il était charmant, il voulait plaire et en même temps, il voulait servir la France. Or, à son avis, c'était d'un grand intérêt que les livres français fussent lus à l'étranger et que les libraires français gagnent de l'argent. Donc, il faisait tout pour encourager l'encyclopédie qui était la plus grande œuvre d'édition française de l'époque. Et dans les périodes critiques, comme je vous le montrerai demain, il fut même incroyable passe-droit pour les protéger. À ce point de vue-là, donc, Malzer a été le protecteur numéro un de l'encyclopédie. Et quand plus tard, les révolutionnaires l'ont décapité en 1794, je pense que s'il était encore lucide, il a dû se dire « Je suis payé ». L'autre protecteur, c'était une putain qui s'appelait Madame de Pompadour. C'est son vrai nom, Antoinette Poisson. Madame de Pompadour n'était pas bête et Madame de Pompadour n'était pas très jolie. Messieurs, vous aurez à confesser les femmes. Et vous verrez que les femmes pas très jolies sont moins bonnes que les femmes jolies. Une femme vraiment jolie est meilleure qu'une femme pas très jolie. Parce qu'une femme pas très jolie est toujours jalouse et cherche à compenser, à rattraper. C'est horrible. Je suis vieux et je peux vous le dire. Bien. Donc, Madame de Pompadour n'était pas assez jolie pour être vraiment bonne et brave. Elle était, et comme elle était la maîtresse de Louis XV, il fallait qu'elle compense. Elle le fut environ de 1754 à 1764, mort, date de sa mort. Cette femme, disait-on, disait ses ennemis, avait le teint truité. Et incontestablement, elle devint borgne à un certain moment. Le dauphin qui ne l'aimait pas l'appelait la vieille borgnesse. Pour garder son influence sur le roi, elle n'avait que deux moyens. L'un, un phare, qui était de lui procurer de petites jeunes personnes qui amusaient le roi sans pouvoir la remplacer. Et l'autre, qui était de distraire le roi en l'entourant d'artistes et d'intellectuels. Aussi fut-elle vraiment passionnément attachée et servilement attachée aux gens de l'encyclopédie qui la flattaient, qui amusait le roi, à tel point qu'elle fit de Voltaire un chambellan de Louis XV, jusqu'au jour où on flanqua Voltaire dehors. Elle se souciait très peu de la morale et elle voulait être obéie par les ministres. Aussi, quand un homme comme Choiseul voulait garder le pouvoir, il fallait qu'il fît ce qu'elle voulait. Donc, elle imposait aux ministres le respect de l'encyclopédie. Elle a protégé l'encyclopédie constamment pour être populaire, pour amuser le roi et pour briller. Les encyclopédistes avaient une autre ressource, qui était peut-être moins proche, mais qui était tout de même extrêmement puissante. Tous les potentats d'Europe les plus notoires étaient leurs amis et protecteurs. J'espère que l'on ne choque personne en disant que l'impératrice Catherine II de glorieuse mémoire était une des pires femmes que l'Europe a portées. Parce que c'est tout de même pas excessivement gentil, et même pas très délicat, de faire assassiner son mari par son amant. Au moins, si elle avait fait assassiner par quelqu'un d'autre, j'aurais compris. Mais vraiment, c'est horrible. Et ensuite, de traiter son fils presque aussi mal. Donc, c'était une méchante femme, c'était une Allemande dure, sans égard pour autrui, sensuelle. Le nombre de ses amants, indicible. Elle voyait un officier, ping, ce soir. Bien. Donc, c'était la pire des harpies sensuelles. Mais en même temps, elle n'était pas idiote. Et n'étant pas idiote, elle voulait briller et avoir une réputation de femme bonne, intelligente, généreuse, grande princesse éclairée. Et à cet effet, elle protégeait hautement les encyclopédistes, à tel point qu'elle acheta la bibliothèque de Diderot en lui payant 10 000 francs par an, mais en lui envoyant comme premier paiement les 10 premières années de ses paiements. Ensuite, elle le reçut à Moscou et elle le combla encore de cadeaux. Elle invita aussi d'Alembert et elle invita la cuisinière des philosophes, cette Madame Geoffrin, qui leur donnait à manger et qui les recevait quand ils avaient faim et même quand ils avaient faim. Donc, Catherine II a été une sorte de providence financière et autre pour les encyclopédistes. Et cela avait aussi une certaine importance, parce qu'il y avait en Russie beaucoup de princes très riches parlant français, beaucoup de marchands riches parlant français, et cela faisait un des gros débouchés pour l'encyclopédie. Parmi les 30 000 exemplaires de l'encyclopédie vendus, il y en a eu certainement une très grande quantité vendue en Russie, en Pologne et en Europe centrale. L'autre ami des encyclopédistes en Europe centrale, l'autre grand, l'autre fameux ami, était le roi Frédéric II de Prusse. Il savait que c'était un homme extrêmement intelligent. Mais il était aussi impie qu'intelligent et aussi immoral qu'impie. Dans sa jeunesse, il avait de telles mœurs que son père avait cru devoir faire décapiter son aide-de-camp en sa présence. À la suite de quoi, il eut une maladie nerveuse plusieurs mois. Frédéric II était donc un homme qui haïssait l'Église. Mais c'était un homme d'un esprit tellement froid et tellement systématique qu'il profitait de tout ce qui pouvait servir son pays. Il encourageait les encyclopédistes parce qu'il jugeait que c'était une bonne façon de diminuer la France et de diminuer le pouvoir du roi de France. Mais également, quand les jansénistes réussirent à faire chasser de France les jésuites qui avaient commis une grosse bêtise, du reste, ce fut lui qui invita les jésuites à venir en Prusse où il les recueillit et où il se montra le regard généreux. Voyez donc quelle était l'ambiguïté de cet homme corrompu mais intelligent et qui apportait aux encyclopédistes une aide beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus modérée et mesurée que Catherine II, mais une aide, dans certains cas, plus efficace. La haute noblesse d'Europe centrale, polonaise, bohémienne, prussienne, tous ces petits souverains d'Allemagne, étaient abonnés à l'encyclopédie et formaient une clientèle qui répandait les idées de l'encyclopédie et qui venait à Paris où il servait, si vous de haie d'honneur pour les encyclopédistes. Tels sont les éléments qui devaient permettre à l'encyclopédie de tenir, malgré la lutte très forte, comme vous le verrez, qui fut livrée contre elle. Je vous ai fait un portrait beaucoup trop bref, mais je vous ai fait un portrait, je crois, aussi exact qu'il est possible. Et comme il nous reste, d'après votre pendule, environ 47 secondes, je peux répondre à vos questions pendant 47 secondes. Allez-y, c'est vrai, il faut être rapide, clair et pénétrant. Et, allez-y.
Vous pouvez nous parler du XVIIIe siècle. En quoi jugez-vous que vous êtes vous-même un homme du XVIIIe siècle?
Pardon?
Vous venez de parler du XVIIIe siècle. En quoi jugez-vous que vous-même êtes un homme du XVIIIe siècle?
Je suis un homme du XVIIIe siècle, mon cher ami, j'ai assez de respect pour vous dire le fond de ma pensée, parce que je suis horriblement frivole. Et parce que, également, ayant lu beaucoup d'auteurs, ceux qui m'ont le plus amusé, le plus distrait, le plus instruit, en bien et en mal, ce sont les auteurs du XVIIIe siècle. Mon esprit a tiré plus de bénéfices de Fontenelle et de certains auteurs religieux du XVIIIe siècle, d'aucun écrit religieux du XIXe et du XXe. Alors, c'est pour ça que je dis du XVIIIe siècle. Ce qui fait que j'aurai beaucoup moins de peine à quitter le XXe. Mais pas vous, vous regretterez. Je vais donner une réponse insuffisante à une question intelligente, mais aujourd'hui j'ai trop à faire pour revenir sur ce sujet-là, ce sera pour la semaine prochaine. Et c'est dans ces conditions de nervosité que la France, tout en nommant encore des députés et des majorités douteuses, maçonniques, graduellement, même ces gens-là prirent peur. Et c'est en ça qu'ils furent plus raisonnables à ce moment-là qu'avant 1939. Ils prirent peur. Et alors, certains comme Clémenceau retrouvèrent une sorte de patriotisme et s'éloignèrent de la maçonnerie. Clémenceau, qui avait soutenu Dreyfus, refusa de le recevoir ensuite. Plusieurs autres maçons firent de même. Poincaré, qui avait été initié à la maçonnerie à un moment, la quitta. Et des généraux comme Joffre, qui avait été un maçon fidèle à un certain moment, se détacha d'elle plus ou moins complètement. Ainsi, le fait d'un danger, le fait que le patriotisme existait encore, le fait que parallèlement se développait dans la jeunesse, grâce à l'Action française, un renouveau nationaliste et dans l'élite spirituelle, un renouveau chrétien. J'aurai le plaisir de vous parler au mois de mars pour vous alimenter intellectuellement dans votre jeunesse.